Les mystères du Palais Royal, troisième partie. Chapitre 28. L'amant et le mari. Après les paroles échangées entre Henri et Madame Clodion, le jeune homme s'approcha du lit de la marquise. Il s'agenouilla à son chevet et, au milieu de ses serments d'éternelle tendresse, il lui jura de consacrer sa vie entière à l'enfant qui venait de recevoir le jour. Il la supplia de se bien soigner pour l'amour de lui, et il lui promit de revenir la nuit suivante. Ensuite, il fit signe à Madame Clodion, et tous deux, lui, la main sur la garde de son épée, elle tenant entre ses bras la petite fille qu'elle emportait, sortirent de la chambre de la jeune femme et gagnèrent l'issue par laquelle ils s'étaient introduits dans le château. Un instant après avoir franchi le seuil de la porte dérobée, et au moment où il allait s'engager avec la sage-femme dans les allées du parc, M. de Maugiron se retourna pour jeter un dernier regard sur la façade du château et revoir la fenêtre faiblement éclairée de sa maîtresse. Chose étrange, il lui sembla que soudain cette lumière diminuait d'éclat, comme si un corps opaque se fût interposé dans l'intérieur de la chambre d'Henriette entre la lampe et la fenêtre. Mais comment cela se pouvait-il faire, et qui donc à cette heure entrait dans cette chambre? Monsieur de Maugiron crut s'être trompé. Il regarda mieux, espérant se convaincre qu'il n'y avait rien de réel dans le fait que ses yeux constataient. Vain espoir. Henri ne se trompait pas. La lueur avait réellement pâli, et voici qu'un cri étouffé, cri d'angoisse et presque d'agonie, traversa l'espace et vint comme un coup de poignard frapper le jeune homme droit au cœur. Il avait reconnu la voix d'Henriette. À coup sûr, quelque malheur étrange, imprévu, terrible, était en train de se consommer derrière les murailles muettes du château. Madame Clodion, elle aussi, avait entendu et tremblait de tout son corps. « Allez !» lui dit Henri d'une voix brève et rapide, et qu'une toute-puissante émotion rendait à peine distincte. « Sortez du parc, rejoignez le carrosse, regagnez Toulouse. Ne perdez pas un instant, courez, sauvez l'enfant. Je retourne au château, je vous reverrai demain. Allez, allez donc vite !» La coucheuse ne se fit pas répéter deux fois cet ordre. Elle s'enfuit en longeant les murailles, afin de s'orienter plus facilement et de ne point courir le risque de s'égarer dans ce parc immense. Elle retrouva la petite porte. Elle suivit le chemin qu'elle avait parcouru avec Monsieur de Maugiron quelques heures auparavant. Elle aperçut le carrosse qu'elle rejoignit et dans lequel elle s'élança en criant au cocher « À Toulouse, et bride abattue ! Votre maître vous ordonne de crever les chevaux pour arriver plus tôt. Il y va de vie et de mort. » Le cocher, convaincu que Madame Clodion lui transmettait en effet les ordres de son maître, fouetta vigoureusement son attelage, qui partit au plus rapide galop, secouant le carrosse à le briser sur les pierres anguleuses du chemin. En moins d'une heure, grâce à cette allure impétueuse, Madame Clodion descendait de voiture, non loin de son logis. Ajoutons que l'honnête accoucheuse ne se crut décidément en sûreté et à l'abri de tout péril que quand elle eut refermé sur elle et assujetti à l'aide d'un verrou la porte de sa petite maison. L'enfant qu'elle avait emporté poussait des vagissements lamentables. Rejoignons M. de Maugiron. Au moment où Madame Clodion disparaissait à l'angle de la première allée, il avait pris son élan vers le château. Haletant, respirant à peine, il avait, en quelques secondes, franchi les marches de l'escalier qui conduisait au premier étage. Il avait traversé la galerie des portraits de famille, puis l'antichambre d'Henriette, et là, il s'était arrêté, collant son oreille avide contre la dernière porte qui le séparait de la chambre à coucher de la jeune femme. Mais il n'entendait rien. Rien qu'un bruit sourd, rapide, irrégulier, qui semblait résonner au-dedans de lui-même et qui l'assourdissait en martelant ses tempes. Ce bruit, c'était celui de son cœur qui frappait à coups redoublés les parois de sa poitrine. Au bout de quelques secondes, ce bourdonnement confus s'apaisa. Il devint possible à Henri de percevoir les bruits extérieurs. Et alors, tandis que ses cheveux se hérissaient sur son front pâle, alors il entendit. Et voici quelle phrase terrible vint frapper son oreille à travers la porte fermée. « Son nom, le nom de votre amant, dites-le-moi, il le faut, je le veux. Dites-le-moi, ou je vous tue. » La voix qui parlait ainsi, voix stridente et gutturale, était celle du marquis de Roqueverde. Aucune réponse ne fut faite à cette demande impérieuse. Parlerez-vous ? Reprit le marquis d'une voix plus haute encore et plus menaçante. Parlerez-vous, malheureuse femme ? Henriette se taisait. Ce silence était effrayant. On entendit M. de Roqueverde frapper du pied avec fureur. Henriette poussa un gémissement douloureux. Puis le silence recommença. Peut-être le marquis venait-il d'accomplir son horrible menace et de tuer la pauvre femme qui s'obstinait à ne point parler. M. de Maugiron n'y tint plus. Chancelant, livide, les yeux pleins de flammes et l'épée à la main, il parut sur le seuil de la porte. Quel spectacle s'offrit à lui! Henriette, à demi nue et mourante, s'était traînée jusqu'au milieu de la chambre, aux genoux de son mari, qui lui meurtrissait le poignet droit entre ses deux mains. Elle semblait près de perdre connaissance, son regard s'éteignait, et sa tête, renversée en arrière, roulait d'une épaule à l'autre. En apercevant Henri, ses yeux se rouvrirent. Elle poussa un cri déchirant. Elle fit un effort pour se relever et courir à lui. Mais ses efforts la trahirent, et elle retomba. Tout cela s'était passé en beaucoup moins de temps que nous n'en avons mis à l'écrire. Nous savons déjà que le marquis de Roqueverde était un vieillard, et nous avons rendu hommage à la noblesse et à la loyauté habituelle de son caractère. Ajoutons que sa haute taille et son front pâle, entouré de beaux cheveux blancs, donnaient à son aspect quelque chose de patriarcal. En ce moment, il n'était plus lui-même. La fureur décomposait ses traits et le rendait méconnaissable. « Ah ! » murmura-t-il en lâchant le poignet d'Henriette. « Je demandais son nom et le voilà lui-même. C'est Dieu qui me l'envoie !» Il marcha jusqu'à Henri, qu'il reconnut aussitôt. « Vous ! » cria-t-il ensuite avec un rire pareil à celui que doivent avoir les damnés dans l'enfer. « Vous, le comte de Maugiron ? L'homme perdu de débauche ? L'homme de tous les vices, de toutes les fanges, de toutes les hontes ? L'amant des plus boueuses créatures de la rue Ribaude ? J'aurais dû m'en douter. Quel autre homme que celui-là était digne de l'amour de la marquise de Roqueverde ?» L'injure, ne s'adressant qu'à lui, aurait glissé peut-être sur Monsieur de Maugiron. Mais en même temps qu'elle le frappait au visage, elle atteignit Henriette au cœur. Il s'écria à son tour, indigné et menaçant. « Taisez-vous, monsieur, taisez-vous » L'audace de Henri sembla stupéfier Monsieur de Roqueverde dans le premier moment. Mais il se remit presque aussitôt et il reprit. « Vous osez, misérable, vous osez me parler ainsi? Vous osez m'imposer silence ?»« J'ose vous dire, » interrompit Monsieur de Maugiron. « J'ose vous dire que s'il y a ici un misérable, c'est vous, le bourreau de cette femme, vous l'infâme vieillard qui, après lui avoir fait subir votre horrible amour, l'assassinait sans pitié. » Une écume blanchâtre vint aux lèvres du marquis. Il fit un pas de plus en avant, il leva la main droite et il la laissa retomber sur la joue d'Henri. Ce dernier brandit son épée pour frapper le vieillard, mais il l'abaissa aussitôt en balbutiant d'une voix étranglée. « Une arme. Prenez une arme et défendez-vous. Je ne suis pas un assassin comme vous, moi. Un assassin est le bourreau d'une femme. » Monsieur de Roqueverde était entré dans la chambre d'Henriette avec une épée. Cette épée gisait sur le seuil à quelques pas en arrière. Il la ramassa et il se précipita sur Henri avec une rage furieuse et avec toute l'impétuosité d'un jeune homme. Monsieur de Maugiron se mit en garde. Le combat commença. Henriette avait complètement perdu connaissance. Chapitre 24. Le jugement de Dieu. À quoi bon décrire un duel de plus? Les pages batailleuses des précédentes parties de ce livre ne fourmillent-elles pas de grands coups d'épée, de feintes, de parades, d'estocades de 100 espèces qui toutes se ressemblent plus ou moins? Nous préférons nous abstenir de nouvelles redites. Le combat dont nous ne racontons point les péripéties et qui du reste ne dura que quelques minutes, fut en réalité l'expression de ce que, au Moyen-Âge, on appelait le jugement de Dieu. Certes, au point de vue de la justice et de la moralité, le bon droit était du côté du marquis de Roqueverde. Si atténuantes que fussent certaines circonstances qui militaient en faveur des deux amants, il n'en est pas moins certain que M. de Maugiron était un larron d'honneur et Henriette une femme adultère. Dieu défend les criminels amours, et le serment d'inviolable fidélité fait par devant le ministre du Très-Haut doit être et rester sacré. Le crime avait été commis. La punition fut terrible. mais il faut s'incliner sous l'arrêt de la volonté suprême. Le murmure en cette circonstance serait lui aussi une faute. L'épée du marquis atteignit en pleine poitrine Monsieur de Maugiron. Telle avait été la violence du choc que la pointe de l'arme ressortit entre les deux épaules. Henri lâcha son épée. Un flot de sang monta de sa poitrine à ses lèvres, arrêtant ainsi les paroles qu'il aurait voulu prononcer. Il y eut alors pour lui, en moins d'une seconde, un siècle de torture. Il se sentait frappé de mort. Il comprenait qu'avant qu'une minute se fût écoulée, il aurait cessé de vivre, et il pensait à Henriette et à son enfant, sa maîtresse et sa fille, abandonnées toutes deux. Qu'allait-elle devenir quand il ne serait plus là pour défendre l'une et pour protéger l'autre? Oh, sans doute, Dieu est sévère, mais il est bon, mais il est juste. À chaque créature humaine, il mesure sa part de souffrance, et à ceux qui ont beaucoup souffert, il pardonne beaucoup. Eh bien, nous n'en doutons point. Dieu tint compte à Monsieur de Maugiron de cette suprême et indicible angoisse, de cette épouvantable torture, et quand l'âme du jeune homme put s'échapper enfin de son enveloppe terrestre, elle parut devant un juge indulgent et prêt au pardon. Henri tourna deux fois sur lui-même. L'éclair de ses yeux s'éteignit, le sang jaillit de ses lèvres entr'ouvertes. Il tomba de toute sa hauteur, comme un chêne dont on a sapé le tronc par la base. On entendit un faible et dernier soupir, puis tout fut fini. Monsieur de Maugiron était mort. Le marquis de Roqueverde, après avoir achevé, ainsi que nous venons de le dire, la première partie de sa terrible tâche, regarda avec stupeur et presque avec effroi ce jeune et beau cadavre étendu à ses pieds. Alors il eut peur de son œuvre. Alors il regretta de s'être trop bien vengé. « À elle, murmura-t-il faiblement, à elle du moins, je pardonnerai. » Et il se pencha pour prendre le corps d'Henriette et pour la replacer sur le lit. Il y parvint, mais non sans peine, car à mesure que se dissipait sa colère, un complet épuisement succédait à la force factice qu'il avait soutenue jusque-là. « Quelle pâleur » pensa-t-il. « Oh, la malheureuse femme, comme elle a dû souffrir !» Il ramena avec précaution les draps du lit sur la poitrine nue d'Henriette. Cette poitrine était glacée. Il appuya sa main sur le cœur de sa femme et il lui sembla d'abord qu'il ne trouvait point la place où ce cœur devait battre. Il chercha de nouveau. Il cherchait, et toujours en vain. « Oh, mon Dieu » s'écria-t-il avec désespoir. « Mon Dieu, mais son cœur ne bat plus !» Et sa main cherchait encore, espérant surprendre à la longue un mouvement léger. Hélas, Monsieur de Roqueverde ne se trompait pas. Henriette avait cessé de souffrir. Son cœur ne battait plus. Son âme s'était envolée la première, et celle de son amant n'avait fait que la rejoindre. Voici comment s'explique la présence du marquis dans la chambre de sa femme, presque au moment où Henri et Madame Clodion venaient d'en sortir. Pendant toute la première partie des événements qui remplissent les précédents chapitres, Monsieur de Roqueverde avait dormi sans défiance. Soudain, il s'éveilla, et il lui sembla dans le premier instant de son réveil qu'un bruit léger se faisait dans la chambre voisine. C'était Henri et la coucheuse qui partaient. Le marquis sauta en bas de son lit et alla écouter à la porte. Il n'entendit plus rien. « Je me serais trompé, » pensa-t-il. Mais une agitation bizarre et sans cause apparente venait de s'emparer de lui. Il sentait qu'il ne pourrait plus dormir cette nuit-là, et au lieu de se recoucher, il prit à la hâte quelques vêtements et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le parc. Au bout d'un instant, vision bizarre, il vit distinctement deux personnes, un homme et une femme qui s'éloignaient du château et se dirigeaient rapidement vers les allées ombreuses. Il sembla au marquis qu'il recevait un coup dans le cœur. Il ne pouvait révoquer en doute le témoignage de ses sens. Donc, un instant auparavant, il ne s'était point trompé. Ce bruit entendu à son réveil avait une cause. Quelqu'un venait de sortir de la chambre d'Henriette. Quelqu'un? Mais qui? Cette question, Monsieur de Roqueverde ne se la posa point deux fois de suite. Avec une incompréhensible et effrayante lucidité, il entrevit la vérité tout entière. Il devina, il comprit ce qui venait de se passer. Alors, saisissant son épée et poussé par une rage infernale, il se précipita dans la chambre de sa femme. Cette dernière, le voyant entrer, livide, terrible et l'épée à la main, poussa un cri d'angoisse, d'épouvante et d'agonie, qui devait arriver jusqu'au cœur de son amant. Puis se jetant aux pieds du marquis, elle s'y traîna, suppliante, en murmurant « Grâce, grâce !» Nos lecteurs savent le reste. Le lendemain matin, les domestiques du château, en pénétrant dans la chambre de leur maîtresse, y trouvèrent deux cadavres. Celui d'Henriette, couché dans son lit et semblant endormi, celui de Monsieur de Maugiron, étendu tout sanglant sur le sol. Quant au marquis de Roqueverde, il avait disparu. Un voile impénétrable pour tous, excepté pour nous qui venons de le soulever, enveloppa les événements de cette nuit sinistre. Comme les plus grands noms de la province se seraient trouvés mis en cause dans un procès criminel, la justice n'informa point. Un an après cette époque, un vieillard chancelant, et qui semblait avoir déjà un pied dans la tombe, prononçait ses vœux dans un couvent d'Italie de l'ordre des Dominicains. Ce vieillard était le marquis de Roqueverde. Chapitre 30. Les projets de Madame Clodion. Le matin du jour qui suivit les événements sinistres accomplis au château de Roqueverde, Madame Clodion, l'honorable habitante de la rue Ribaude, se mit en devoir de chercher une nourrice pour la frêle petite créature confiée à ses soins par Monsieur de Maugiron. Cette recherche faite habilement amena un prompt résultat. Une heure après les premières démarches de Madame Clodion, la petite fille prenait avidement le sein d'une fort belle jeune femme qui promettait d'avoir pour elle les mêmes soins et la même tendresse que pour ses propres enfants. Ceci fait, Madame Clodion rentra dans son logis et elle attendit fort impatiemment Monsieur de Maugiron. Nous disons « fort impatiemment » car la coucheuse se souvenait à merveille d'une chose que nos lecteurs, eux, ont peut-être oubliée, c'est-à-dire qu'un supplément de récompense assez important lui avait été promis par le comte si elle menait à bonne fin l'accouchement de la nuit précédente. Or, M. de Maugiron n'arrivait pas. À mesure que s'écoulaient les heures, l'impatience de Mme Clodion faisait place à un vif sentiment d'inquiétude. Elle se rappelait ce cri terrible qu'elle avait entendu retentir soudainement dans le silence de la nuit et qui avait décidé M. de Maugiron à la quitter en toute hâte pour retourner au château. Elle tremblait qu'un malheur ne fût arrivé. Non point que Madame Clodion eût bon cœur. Ah, grand Dieu! Qui pourrait supposer une pareille chose? Le cœur de la coucheuse était depuis bien longtemps ossifié, si toutefois, ce qui nous paraît infiniment douteux, il avait existé jamais. Mais un malheur arrivé à Monsieur de Maugiron se soldait en déficit dans le bilan des intérêts pécuniaires de la coucheuse. Il en résultait d'abord la perte nette et immédiate de la récompense promise. Ensuite, il pouvait se faire que l'enfant restât à sa charge, et cette charge serait lourde s'il fallait payer la nourrice et les frais de toute espèce qui se succéderaient à mesure que la petite fille grandirait. À cette seule pensée, une sueur froide venait mouiller la maigre échine de la vieille femme. Cependant, elle attendait toujours et elle espérait encore. Pendant 2 jours, elle attendit et elle espéra. Le 3e jour, la rumeur publique apporta jusqu'à elle le récit tronqué et incohérent de l'épouvantable drame du château de Roqueverde. Madame Clodion comprit tout. Elle se persuada qu'elle était complètement ruinée et elle se désola en conscience. Une pensée soudaine vint cependant calmer un peu cette grande douleur. Ce qui est arrivé 5 minutes après mon départ aurait pu arriver 5 minutes avant, se dit la coucheuse. Et qui sait si, ce cas échéant, je serais encore dans ce monde à l'heure qu'il est? Or, me voici vivante et bien portante. Ce n'est donc qu'un peu d'argent perdu. Il ne faut pas se désespérer outre mesure. Puis, la sage-femme, après s'être ainsi raisonnée, prit sa cape et sortit de sa maison. Où allait-elle? Chez la nourrice. Dans quel but? Dans le but de lui déclarer qu'à partir de la fin du présent mois, elle prétendait ne plus se mêler en quoi que ce fût de ce qui regardait l'enfant, laissant la nourrice parfaitement libre de le porter, si elle le jugeait convenable, à l'hospice des enfants trouvés. Mais ses intentions ne tardèrent point à se modifier du tout au tout. Voici pourquoi. « Ah, madame !» lui dit la jeune femme en patois méridional, après les premiers compliments. « Que voilà donc une petite garcette qui sera une belle fille un jour ?»« Vous croyez ?» demanda la coucheuse. « Si je le crois. Mais regardez donc comme c'est fait, ces petits membres mignons. « Ah, grand bon Dieu, oui! La ptiote en fera tourner des têtes quand elle aura tant seulement 15 ans. Madame Clodion se prit à réfléchir. Elle se souvint de l'incomparable beauté de cette malheureuse jeune femme dont elle avait aidé la délivrance. Elle se souvint que le comte de Maugiron passait dans tout le pays pour le cavalier le plus charmant qu'il fût possible de rencontrer. Elle se dit que la petite fille tiendrait, sans nul doute, de ceux à qui elle devait le jour. La beauté, son seul héritage. Et quand Madame Clodion eut envisagé tout cela, il lui parut prouver que cet enfant abandonné pouvait non seulement n'être point pour elle une cause de ruine, mais encore aider puissamment à une fortune inespérée. Seulement, il fallait attendre. Mais Madame Clodion se croyait jeune encore, et 15 ans ne lui semblaient point, ma foi, un avenir trop éloigné. Donc, les réflexions que nous venons de rapporter changèrent absolument le cours des idées de Madame Clodion et modifièrent du tout au tout ses déterminations. Au lieu d'engager la nourrice à se défaire le plus tôt possible de son nourrisson, elle lui recommanda de l'entourer des soins les plus continuels et les plus minutieux. Et quand la jeune femme demanda « Comment que voulez-vous que nous l'appelions, cette chère petite ?» Madame Clodion, qui se piquait de mythologie, répondit « Il faut l'appeler Hébé. » Hébé versait dans l'Olympe le nectar aux immortels.